Bonjour à chacun, bonjour à chacune, bonjour à vous qui êtes chez vous. Soyez les bienvenus tels que vous êtes pour ce temps de culte. Ce matin, nous allons, avec l'aide du Seigneur, essayer de nous approcher toujours plus du Très-Haut. Non pas en essayant de s'élever à lui comme avec une tour de Babel, mais au contraire, en laissant pousser les fleurs de l'humilité en nous. L'humilité, c'est le thème choisi par Myriam Mathey, notre oratrice de ce dimanche. Je vous la présenterai plus tard. Comme vous le savez, nous avons commencé un cycle sur le livre de Daniel avec Philippe. Ce matin, nous faisons une brève interruption et pourtant le thème de l'humilité jette une lumière poignante sur ce que vit Daniel à Babylone face à la domination du roi Nabucodonosor. L'humilité est une attitude primordiale pour recevoir Dieu et être élevé par lui. L'humilité, c'est bien un mouvement du cœur. S'abaisser face à ce qui est réellement grand et être élevé par une dimension qui nous dépasse. Le contraire de l'humilité, c'est sans doute le sentiment de supériorité. Penser que l'autre n'est pas aussi fort que moi, pas aussi riche que moi, pas aussi important que moi. Penser que la vie de l'autre n'a pas autant de valeur que la mienne. Je trouve qu'il n'est pas facile d'admettre que je peux parfois me mettre en position de supériorité. Et que parfois aussi, je peux me mettre plus bas que terre. L'histoire humaine est ponctué d'humains ayant cru régner sur le monde en se donnant le pouvoir d'écraser d'autres humains qui n'étaient pas considérés comme humains. Et cela a conduit et continue de produire les pires atrocités de notre monde. Nous nous laissons stopper dans les relations parce que l'autre n'est pas comme moi. Pas le même sexe, pas la même pensée, pas la même langue, pas la même origine, pas la même couleur de peau, pas la même classe sociale, pas la même religion. Oui, et pourtant, chaque humain est unique en tout point. La différence ne déshumanise pas. Elle est la preuve vivante de l'infinie création de Dieu, de la force créatrice de notre Seigneur. L'humilité, c'est se mettre à niveau, le niveau de ce que l'homme est réellement face à Dieu. Cette humilité est primordiale dans nos rapports à Dieu et entre êtres humains. Reconnaître l'autre comme égal, voire même meilleur que moi, c'est accepter que nous ne dominons pas tout et nous ne contrôlons pas tout le monde. Nous laissons alors Dieu régner, car lui seul sonde le cœur de chaque individu. J'aimerais vous lire le cantique de Marie en guise de prière pour débuter ce culte. De tout mon être, je veux dire la grandeur du Seigneur. Mon cœur est plein de joie à cause de Dieu, mon Sauveur. Car il a bien voulu abaisser son regard sur moi, son humble servante. Oui, dès maintenant et en tous les temps, les humains me diront bienheureuse, car le Dieu puissant, tout-puissant a fait pour moi des choses magnifiques. Il est le Dieu saint. Il est plein de bonté en tout temps pour ceux qui le respectent. Il a montré son pouvoir en déployant sa force et il a mis en déroute les hommes au cœur orgueilleux. Il a renversé les rois de leur trône et il a placé les humbles au premier rang. Il a comblé de bien ceux qui avaient faim et il a renvoyé les riches, les mains vides. Il est venu en aide au peuple d'Israël, son serviteur, et il n'a pas oublié de manifester sa bonté envers Abraham et ses descendants pour toujours, comme il l'avait promis à nos ancêtres. Gloire à Dieu. Qu'on puisse lui offrir notre louange ce matin. Amen.
Nous voulons vous inviter à un temps de louange en nous inspirant par ce thème qui nous a été rappelé. Louer Dieu, c'est se tourner vers Dieu. Le louer, c'est exprimer notre reconnaissance. Mais on le fait aussi, pas seulement pour Dieu, mais pour que sa présence puisse imprégner nos vies. Mais quelle image de Dieu ? Il se trouve qu'il y a quelques temps, j'ai relu des textes de la Bible. Je me suis laissé choquer. C'était des textes dans les juges, mais c'est violent, pire que les plus radicaux des islamistes. Mais nous, chrétiens, c'est à la lumière du Christ que nous lisons cette Bible, avec ce paysage violent qui est aussi présent. La lumière du Christ qui a dit « Je suis doux et humble de cœur ». J'aimerais commencer par un verset d'un des prophètes, du prophète Osée, qui nous rappelle que ce Dieu, c'est un Dieu qui se préoccupe de justice, qui se préoccupe des plus humbles. Et j'aimerais lire ce texte de Michée 6:8, qui est à la base d'un mouvement qui est né dans les années 2000, dans la mission chrétienne, pour nous rappeler cette centralité de la justice dans la Bible. Et nous sommes invités à vraiment nous engager pour la justice dans le monde. Et ce texte de Michée 6:8, on va le chanter tout à l'heure. Je vous le lis dans la version Nouvelle Français Courant. Il met ensemble la justice, la bonté, miséricorde et l'humilité. On t'a enseigné ce qui est bien, ce que le Seigneur exige de tout être humain. Il demande seulement que tu respectes le droit des autres, c'est la justice, que tu aimes agir avec bonté, la miséricorde, et que tu suives avec humilité le chemin que lui, ton Dieu, t'indique. Venu humblement sur cette terre.
Lumière du monde, obscurité, tu te mouves.
Je vais lire le texte de la prédication qui se trouve en Luc 18, les versets 9 à 14. Jésus dit la parabole suivante à l'intention de ceux qui croyaient faire la volonté de Dieu et méprisaient les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre collecteur d'impôts. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Mon Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme tous les autres qui sont voleurs, mauvais et adultères. Je te remercie de ce que je ne suis pas comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne 2 jours par semaine. Je te donne le 10e de tous mes revenus. » Le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance et n'osait pas même lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine et disait « Mon Dieu, prends pitié de moi qui suis un pécheur. » « Je vous le dis, ajouta Jésus, cet homme était reconnu juste aux yeux de Dieu quand il retourna chez lui, mais pas le pharisien. En effet, celui qui s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. » Donc ce matin, nous aurons l'immense privilège d'écouter Myriam Matet, qui est une de mes amies de Emmaüs. On s'est rencontrés là-bas, moi j'ai commencé, c'était en 2009, donc on s'est rencontrés en 2009, là-bas à Saint-Légier. Et c'est vraiment un immense privilège de te revoir. Nos chemins se croisent de temps en temps. Et ça me fait vraiment super plaisir que tu sois là. Donc, Myriam Matet est pasteur à l'église de la Fraternelle à Nyon. Elle est à temps partiel. À côté de ça, elle exerce son premier métier qui est psychologue. Elle est mariée avec Pascal. Ils ont 2 enfants, Stanley et Stacy, qu'ils ont adoptés de l'île de Haïti et qui lui prennent pas mal d'énergie, mais qui sont ultra chouettes, d'après elle. Donc, je vais l'inviter à venir nous rejoindre, prier pour elle, pour ce temps de message, et que le Seigneur puisse ouvrir nos cœurs à sa parole. Seigneur Jésus, merci pour ce privilège que nous avons de nous réunir ce matin, ici. Qu'on puisse s'asseoir devant toi, devant ta parole, devant ta grandeur. Que tu puisses, Seigneur, bénir Myriam qui va nous donner ce que tu lui as mis sur son cœur pour nous ce matin. Merci à elle de s'être mis à ton écoute. Et merci Seigneur parce que tu prépares nos cœurs à recevoir ce que tu as de meilleur à nous offrir. Amen.
Bonjour, bonjour à chacun. Bonjour à ceux qui ne sont pas là aussi. Ça fait plaisir d'être là aujourd'hui avec vous. C'est vrai que c'est la première fois. Merci encore à Célina et Philippe qui m'ont invité parmi vous ce matin. Alors c'est vrai, j'avais à cœur de vous partager ce thème de l'humilité. Et puis pour commencer, puis apprendre un peu comme ça, créer un lien avec vous, j'avais envie de vous poser quelques questions. Quand vous pensez humilité, vous pensez à qui? Est-ce qu'il y a des personnes comme ça qui vous viennent à l'esprit quand vous pensez humilité? Jésus. Ouais, ça c'est le meilleur exemple. Il y aurait quelqu'un d'autre? Pas seulement dans la Bible, hein. Peut-être il n'y a pas des gens autour de vous qui sont humbles. Non? C'est vrai que généralement on ne peut pas dire soi-même, ce n'est pas vraiment une preuve d'humilité que de s'autoproclamer humble. Donc il n'y a pas vraiment beaucoup de personnes humbles, il semble. C'est difficile, on n'ose pas trop dire. Alors, c'est vrai que juste après Noël, le 26 décembre, une personne qui est décédée, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est Desmond Tutu, qui était évêque, archevêque en Afrique du Sud. Et c'est vrai que j'imagine qu'il a dû prendre du temps pour se préparer, pour réfléchir à comment il voulait que son enterrement ait lieu, comment ça se passe. Mais on voit, en tout cas dans les médias, j'ai lu comme ça quelques articles sur lui, il a choisi en fait de prendre un cercueil le plus simple possible, le moins cher possible, en pain. Et il a même choisi, on ne voit pas bien là les détails, mais de ne pas avoir, comme parfois on a des poignées en métal ou doré, tout ça, mais juste de simples cordelettes. Et plusieurs médias ont relevé que, voilà, même au niveau de la cérémonie, il voulait quelque chose de simple et que c'était vraiment quelqu'un d'humble. Donc je trouve que ça fait réfléchir, de se dire, mais je ne sais pas, vous, si parfois vous avez réfléchi à comment est-ce qu'on peut manifester l'humilité, qu'est-ce que c'est être humble? Et ben là, c'est vrai que moi, je ne m'étais jamais posé la question, mais on peut réfléchir à ça même jusqu'à ben, comment on va, nos obsèques seront organisées, puis qu'est-ce qu'on souhaite. Parce qu'il semble qu'en Afrique du Sud, souvent, les gens ils mettent beaucoup, beaucoup d'argent, puis c'est quelque chose un peu d'imposant. Mais lui, il voulait plutôt le contraire, de se dire, mais voilà, je veux partir simplement. Et je pense que le plus important, c'est de se retrouver avec Jésus. Et dans la Bible, voilà, comme ça a été cité, oui, il y a Jésus qui est présenté comme humble. On a entendu aussi Marie dans sa prière qui dit qu'elle est une humble servante. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui vous viennent comme ça, qui sont présentées comme humbles?
Oui, l'abbé Pierre.
L'abbé Pierre. Alors, pas dans la Bible, mais oui, l'abbé Pierre, c'est une personne qu'on peut... voilà, mais c'est vrai. Oui, il y en a d'autres qui disent Sœur Teresa ou d'autres personnes, mais j'espère qu'on est plus que ça, parce qu'on est tous appelés à être humbles. Une autre personne dans la Bible?
Siméon,
Siméon, c'est possible, je ne sais pas, mais en tout cas, Moïse. Moïse, dans Nombre 12, 3, c'est écrit « Or Moïse, il était très humble, plus humble que tout être humain sur la terre. » Et c'est au moment où son frère et sa sœur, Myriam et Aaron, justement, ils ne sont pas trop contents, ils veulent aussi dire qu'eux aussi ils pourraient avoir des révélations de Dieu. Et Dieu les reprend. Et c'est là, c'est marqué à ce moment-là que vraiment Moïse était quelqu'un de humble, de très humble. Il avait cette relation très proche avec Dieu et Dieu lui dit même, il pouvait parler à Dieu comme à un ami. Et bien sûr, comme ça a été dit, Jésus, il est présenté comme humble et doux de cœur. Alors c'est aussi le prophète Zacharie dans l'Ancien Testament qui nous en parle et qui dit au sujet de la venue du Messie, « Sois transportée d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici, ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne. Sur un âne, le petit d'une ânesse. » Alors c'est vrai, déjà dès le départ de sa naissance, il est né dans un lieu assez humble, Jésus. Mais finalement, quand il arrive à Jérusalem à ce moment-là et qu'il est acclamé comme roi, il n'arrive pas sur un super cheval, mais juste sur un âne. Et ça montre aussi vraiment l'humilité qu'il y a en Jésus. Et c'est vrai, je me suis posé la question, mais nous, quand on choisit un moyen de transport, est-ce qu'on réfléchit parfois à cette caractéristique, à cette valeur, à l'humilité? Quand on choisit une nouvelle voiture, alors généralement il y a plusieurs critères, le prix, le confort, mais est-ce que l'humilité de se dire « mais j'aimerais voiture humble » Alors je ne sais pas, ce n'est pas forcément ce qui nous vient à premier abord, mais finalement Jésus s'est aussi posé cette question « comment je vais rentrer à Jérusalem et être célébré comme roi ?» Il a choisi simplement un âne. Et Jésus dira de lui-même, à un moment donné avec ses disciples, aux gens qui sont autour de lui, « Venez à moi. Venez à moi. » Je crois que c'est aussi une exhortation pour nous ce matin. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Jésus lui-même, alors qu'il invite les gens à venir à lui, il dit comme ça en passant, « Je suis doux et humble de cœur. » Et qu'est-ce que ça fait du bien de savoir que quand on est fatigué, quand on est chargé, quand on n'en peut plus, de savoir que Jésus nous invite avec douceur et humilité. Il nous dit, « Mais viens et je te donnerai du repos. » Alors, quels sont un peu, là on a vu un tout petit peu comme ça, un peu plus, qu'est-ce que c'est l'humilité? Mais pour vous, c'est quoi une personne humble? Qu'est-ce que vous diriez? Qui se met pas en avant? Ouais. Modeste. Mmh. qui écrase l'autre, qui écrase pas l'autre, qui aide l'autre. Voilà, qui essaye d'aider l'autre à être supérieur. Ouais. Il y a plein de choses, c'est vrai. Qui n'est pas orgueilleuse, puisque l'orgueil, c'est le contraire de l'humilité. Qui ne cherche pas son intérêt, c'est ça. Qui est prête à se remettre en question. Qui cherche la volonté de Dieu et qui veut lui obéir. Et quelque part, qui reconnaît aussi ses faiblesses, son péché. Il y a plusieurs textes dans la Bible qui parlent de l'humilité, j'en ai pris quelques-uns. Ça, c'est avant Jésus, c'est vrai, j'ai oublié de montrer cette image, mais tu peux la laisser. Jésus, il est venu sur un âne, mais c'est vrai, à un moment donné où il a été encore quelque part jusqu'à l'extrême de l'humilité, ben, quand il était sur la croix. Et déjà, ce qui s'est passé même avant la croix, parce que finalement, on sait qu'il a été même humilié. C'est pas seulement qu'il s'est humilié à Gethsémané dans la prière en disant « Non pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. » Mais avec les soldats romains, il a été aussi humilié. Alors, il y a plusieurs textes. Il y a ce texte dans Jacques 4 qui dit « Humiliez-vous ou abaissez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » C'est vrai que c'est étonnant parce que nous, on aurait tendance à dire « Bon voilà, si au travail, j'aimerais un poste supérieur, ben, j'aimerais monter. » Et Jésus, quelque part, il nous dit « Non, si tu veux monter, descends. » C'est assez contradictoire. Un autre qui nous dit « Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. » Je ne sais pas si vous avez déjà médité sur ce texte. « Laissez-vous attirer par ce qui est humble. » Parce que c'est vrai, Dieu aussi nous dit dans Jacques 4, « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Donc quelque part, ben, il ne réagit pas, Dieu, il se comporte pas de la même manière selon comment aussi nous on est. Si quelque part dans nos cœurs, on est sûr de nous, on croit qu'on est tellement bien arrivé comme ce pharisien, ben quelque part, on va trouver de la résistance en face avec Dieu. Par contre, si on reconnaît qui on est, qu'on a besoin de Dieu et qu'on arrive vers Dieu dans l'humilité, alors Dieu, il a envie de nous faire grâce, il a envie de nous pardonner et il s'engage à ça. Mais qu'est-ce que ça signifie alors s'humilier devant Dieu? Est-ce que quelque part, c'est se courber physiquement, se rabaisser en attitude de soumission? Est-ce que c'est une attitude du cœur? Ben, je pense que ça peut être les deux. Mais c'est vrai que c'est d'abord une attitude du cœur et parfois on peut la signifier en se prosternant. Alors Célina, elle nous a lu la parabole de Luc 18, c'est deux hommes qui prient dans le temple. On dit jusque-là, ben waouh, magnifique, ils aiment Dieu. Mais Jésus, il met en lumière ce qui se passe dans le cœur, ce que nous on ne voit pas. Quand vous priez, ben voilà, Dieu il sait ce qui se passe dans vos cœurs, moi je ne pourrais pas voir si tout d'un coup vous priez. Mais Dieu, il voit exactement ce qu'il y a dans nos cœurs. Et puis, c'est vrai, il y a un contraste tellement grand entre ces deux hommes. Aujourd'hui, si on pouvait la renommer, cette parabole, on pourrait dire, ben, c'est la parabole du bon chrétien et puis de l'homme de mauvaise vie, ce collecteur d'impôts. Et Jésus, quelque part, c'est vrai, il nous surprend. Il nous surprend parce qu'il va honorer celui que, à l'époque, ils avaient tendance, la population juive, à mépriser, le collecteur d'impôts. Ce n'est pas celui qu'on pense que Dieu honore. Alors le pharisien, lui, ben, c'est quelqu'un qui aime tellement Dieu. Il aime la Torah, il la médite, il la lit. Et puis il a vraiment envie de faire plaisir à Dieu. Alors il jeûne. Normalement, c'est une fois par semaine. Lui, il jeûne deux fois par semaine. Il donne sa dîme. Il va au temple. Et quand peut-être il pêche, eh ben, il apporte des sacrifices. Il essaye de tout faire pour plaire à Dieu et pour suivre les commandements de la Torah. Il va même un peu plus loin, justement. Mais qu'est-ce qu'il dit à Dieu, lui, en priant? Est-ce que vous vous rappelez de ce qu'elle nous a lu, Célina? Il dit à Dieu, « Merci Dieu, parce que je ne suis pas comme. » Merci Dieu, parce que je ne suis pas comme lui, comme elle, comme eux, qui pêchent, qui sont adultères, qui font des choses mauvaises. Quelque part, il dit, mais moi, j'accomplis la loi et c'est ça qui me rend juste. Il s'appuie en fait sur sa propre droiture. Il s'estime même meilleur que le collecteur d'impôts. Et malheureusement, il ne prend pas le temps de regarder ce qu'il y a dans son cœur. Lui, il dit, regarde Seigneur, moi, tout ce que je fais pour toi. Et le collecteur d'impôts, lui, il n'ose même pas lever les yeux vers Dieu, il se tape la poitrine, il dit, aie pitié de moi. Mais ce collecteur d'impôts, il faut bien se rendre compte, à l'époque, c'était un peu un collabo, un subalterne juif, puisqu'en fait, il recevait les impôts, il collectait les impôts pour l'occupant romain. Donc, il était vraiment détesté par la population juive. C'était vraiment quelqu'un qu'on... Je ne sais pas qui on pourrait dire un peu comme ça aujourd'hui. Non, c'est quelqu'un de pas bien, entre guillemets. C'est vrai que dans la Bible, il y a aussi Matthieu, que Jésus a appelé, alors qu'il était collecteur d'impôts, à être son disciple. Et on se rappelle aussi de cet homme petit, là, à Jéricho, qui était en haut dans l'arbre, Zachée. Lui aussi, il était collecteur d'impôts. Et Jésus, il s'est invité. Il lui a dit, Zachée, j'aimerais venir aujourd'hui dans ta maison. C'était des gens qu'on n'aimait pas, qu'on n'invitait jamais à table, qu'on essayait de garder loin de nous. Et lui, que dit-il finalement dans sa prière? Lui, il dit, mais ô Dieu, prends en pitié le pécheur que je suis. Il ne fait pas plein de discours, mais il reconnaît, il dit, moi je suis pécheur. C'est vrai, je le reconnais. Et Seigneur, fais-moi grâce, pardonne-moi. Quelque part, il prend le temps de regarder à qui il est et combien il a besoin de Dieu et de son pardon. Alors c'est vrai, on pourrait se poser la question, mais quel est le péché finalement du pharisien? Qu'est-ce que Jésus met en lumière? Le pharisien, lui, il croit qu'il est juste par ce qu'il fait. Il croit qu'il fait tout juste. C'est comme s'il coche. Moi, ce matin, je suis venu à l'église, j'ai prié, j'ai parlé à quelqu'un, je me suis engagé ici pour la louange, j'ai fait ceci, je fais cela. Et quelque part, il pourrait dire, voilà tout ce que j'ai fait, Seigneur, pour toi. Et dans un sens, on pourrait dire, c'est pas faux, c'est aussi bien de servir Dieu. Mais lui, il croit que parce qu'il fait, il est justifié. Quelque part, ça va même loin. C'est comme s'il dit à Dieu, mais moi, j'ai pas vraiment besoin de ton pardon, moi je fais tout juste. C'est même quelque part, moi je me dis, de se présenter comme ça devant Dieu, c'est comme une forme d'insulte, de dire devant Dieu, mais Seigneur moi, t'as vu tout ce que je fais bien? Sous-entendu, j'ai pas besoin de toi, de ta grâce, quoi. Alors Jésus, c'est vrai, il a rien à dire par rapport au fait qu'il jeûne, par rapport au fait qu'il donne sa dîme, et je pense que c'est très bien de le faire, mais on le fait pas pour être justifié, pour être pardonné, on le fait parce qu'on a reçu la grâce et l'amour de Dieu et son pardon. Et que dit Jésus à la fin? Jésus, il dit, mais c'est le collecteur d'impôts qui redescendit du temple chez lui et qui était juste devant Dieu. Et pas le pharisien. Il dit, quiconque s'élève, il sera abaissé. Mais si on s'abaisse, alors Dieu va nous élever. Et quelque part, c'était tellement choquant à l'époque d'entendre ça, parce qu'on ne pouvait jamais, jamais, jamais être pardonné sans avoir apporté des sacrifices au temple. On est encore dans l'ancienne alliance quelque part. Jésus, il n'est pas encore mort et ressuscité. Et si on voulait être pardonné, il faut aller apporter un animal en sacrifice. Et là, Jésus, il dit quelque chose d'extraordinaire. En fait, il est déjà en train d'annoncer la bonne nouvelle. Il dit, mais si vous reconnaissez pécheur, alors Jésus, il est prêt. Dieu, quelque part, il est prêt à vous pardonner. Il annonce la bonne nouvelle du pardon des péchés, d'être justifié et pardonné en Christ. Il n'est pas encore mort, il n'est pas ressuscité, mais il est Dieu. Et lui seul, quelque part, il pouvait proclamer cela. Alors c'est vrai, on peut se poser la question... Mais comment est-ce qu'on parle à Dieu dans nos prières? Est-ce que parfois on aurait tendance quand même un petit peu à être comme le pharisien et de dire « Oh Dieu, merci parce que moi je ne suis quand même pas comme un tel. Et puis tu vois, j'ai quand même fait toutes ces choses pour toi. » Ou est-ce que quand même on prend le temps de se dire « Mais oui, c'est vrai. Seigneur, moi j'ai toujours besoin de toi. » Et parfois dans mon cœur, cette semaine, je ne sais pas, quand j'ai vu cette personne, j'ai eu tendance à la mépriser, ou j'ai eu de l'orgueil en faisant ceci ou cela. Et je crois qu'on a tous aussi besoin d'être vrai devant Dieu, puis de dire, mais Seigneur, c'est vrai, moi aussi, j'aimerais ne plus pécher, mais on sait que, c'est des choses qu'on n'arrive pas à arrêter, même si on sait qu'on est déjà pardonné. Et on a besoin de compter sur la grâce de Dieu. Alors, allons un peu plus loin. Qu'est-ce que l'humilité ? L'humilité, c'est vrai, c'est le contraire de l'orgueil, de se mettre en avant, de se vanter. D'ailleurs, dans 1 Corinthiens 13, il dit « Mais l'amour ne se vante pas. L'amour ne se vante pas. » L'humilité, c'est l'attitude d'une personne qui se reconnaît pécheur devant Dieu. Finalement, devant la grandeur immense de Dieu, tout puissant, qui a créé l'univers, qui était là avant nous, qui sera là après nous. C'est vrai que finalement, quand on se souvient de la grandeur de Dieu et tout ce qu'il a fait pour nous, ben on n'est pas grand-chose. L'humble, il reconnaît qu'il a reçu tout de Dieu. On reçoit la vie, on reçoit un corps, on reçoit des dons, on reçoit tellement de choses. Et merci Seigneur, merci pour toute l'équipe de louanges qui a mis aussi ses dons au service de Dieu. Merci à chacun, parce que si on peut être là, c'est parce que Dieu nous a créés à son image. Et on réalise qu'on est un pécheur, que sans lui, ben on ne peut rien faire, qu'on n'est rien. L'humble, c'est celui qui s'ouvre à la grâce de Dieu, et Dieu a envie après de nous glorifier. Et quelque part, quand on pense à Jésus, quand on pense au Christ, ben lui, il a été tellement loin dans ce chemin d'humilité, parce qu'il a été jusqu'à être obéissant jusqu'à la mort. Jésus, il a été prêt à mourir sur la croix pour nous. Il a été prêt à souffrir cela. Il n'a pas seulement, quelque part, il ne s'est pas seulement abaissé en tant que Dieu Tout-Puissant pour prendre un corps d'homme, mais il a été jusqu'à être humilié par des hommes, par sa créature, et à être mis sur la croix pour que nous puissions être libres, pour que nous puissions être aimés et pour qu'on puisse être réconciliés avec Dieu le Père. Alors c'est vrai que parfois des personnes elles m'ont posé la question, mais quelle est la différence entre l'humilité et l'humiliation ? Alors s'humilier, c'est un acte qu'on fait soi-même, qu'on choisit de faire quand on s'abaisse, on se rabaisse, on renonce à soi, pas pour dire on n'est plus rien, mais pour dire d'abord on veut mettre la priorité en Dieu. Dans cette situation, c'est nous qui sommes quelque part les acteurs, on choisit de s'abaisser, de mettre Dieu en premier. C'est aussi revenir à Dieu dans une attitude de repentance. Et puis c'est vrai, Jésus, ben, il est notre modèle. Il y a ce texte tellement fort de Philippiens 2, 5 qui dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, en ayant paru comme un simple homme. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. » Je crois que Jésus, il a été quelque part le plus bas qu'on peut aller, c'est jusqu'à se donner sa vie par amour pour nous. Et en même temps, c'est en ayant été si bas que Dieu l'a élevé, qu'il a été élevé, qu'il a été glorifié. L'humiliation, à l'inverse, c'est quand quelqu'un nous rabaisse, c'est quand quelqu'un nous critique, nous fait du mal ou cherche à nous déshonorer. Ou quand l'humiliation, parfois, ben, ça peut être quelque chose qu'on nous fait, mais malheureusement, parfois, c'est quelque chose qu'on n'aimerait pas, mais qu'on fait alors aux autres. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on choisit, généralement, c'est quelque chose qu'on subit. Et Jésus lui-même, ben, c'est vrai, quand il a été aussi insulté, quand il a reçu des claques, quand il a reçu une couronne d'épines, et quand il a été flagellé, il a été aussi humilié. Alors nous, dans la Bible, Jésus nous appelle surtout à nous humilier, à venir vers Dieu, à venir vers lui, à reconnaître qu'on a besoin de lui. Mais c'est vrai que dans certains pays, parfois, heureusement, peut-être pas en Suisse, ben, on peut être aussi humilié par rapport à notre foi. Et puis, c'est vrai, c'est jamais agréable, c'est jamais facile à entendre, mais je crois que quelque part, si on se rappelle de ce que Jésus lui-même a vécu, ça peut nous donner aussi cette force de dire, mais si on est humilié par rapport à notre foi, c'est pas nous qui sommes attaqués, mais quelque part, c'est Jésus qu'on attaque au travers de nous. Dans l'Église catholique, il y a eu aussi toute une longue période, je pense plus au Moyen-Âge, où il y avait ces autoflagellations, ces mortifications qui étaient là, et pour différentes raisons. Quelque part, ça fait moins partie de notre courant d'Église, les Églises évangéliques. Mais quelque part, c'était un peu l'idée de jeûner, de renoncer, de faire des privations volontaires, d'obéir aux supérieurs ou de se fouetter, dans l'idée, en fait, de participer aux souffrances du Christ et de se dire « Jésus, il a souffert, moi aussi, je veux souffrir », de faire pénitence. Ou alors, dans l'idée aussi de Romains 8, de faire mourir les désirs de la chair, de dire « Ben voilà, Dieu nous appelle à vivre par l'esprit et pas selon les désirs de la chair ». Mais voilà, ça, je pense que c'était une manière d'essayer de comprendre, d'interpréter la parole, et je crois qu'on n'est pas obligé de se faire quand même du mal pour s'humilier. Mais c'est vrai que ça fait partie de l'histoire de l'Église. Être humble, c'est vraiment, j'ai envie de dire, reconnaître vraiment son besoin de Dieu. C'est reconnaître que Dieu nous appelle, les plus grands commandements, aimer Dieu et aimer son prochain. Et même ça, ben, c'est pas facile tous les jours. Et je crois qu'on a besoin justement de l'humilité pour dire « Seigneur, aide-moi à aimer mon conjoint, aide-moi à aimer mes enfants, à aimer mes voisins, à aimer mes collègues de travail, parce que chaque jour, ben, on est défié. » Et puis parfois, il y en a aussi qui se posent la question « Mais est-ce que être humble, c'est avoir une faible estime de soi ?» Alors l'estime de soi, on pourrait dire, c'est un mélange, il y a plusieurs choses, il y a l'amour de soi, il y a comment on se perçoit, la confiance en soi. C'est un peu comme cette fleur que vous voyez derrière, il y a différents aspects de l'estime. Mais j'aime bien ce cœur au milieu parce que je crois que quand on est chrétien, l'estime de nous-mêmes et l'amour qu'on peut avoir de nous-mêmes, tout ça, ça vient de Dieu. Et c'est seulement parce que Dieu nous aime qu'on arrive aussi à se voir avec bienveillance et à s'aimer. Alors, quand on n'est pas chrétien, les gens ils disent « Oui, alors chacun en psychologie, on dit ben voilà, vous avez un... c'est important d'avoir une bonne estime, mais quelque part on se dit « Mais ça sort d'où ?» C'est comme si on devrait apprendre à s'aimer par soi-même et développer une estime. Mais ce n'est pas toujours évident, c'est vrai, de, si on n'a pas été aimé d'abord, de pouvoir aussi s'aimer. Mais c'est vrai que ça pose des questions. Est-ce que l'estime de soi, c'est un lien avec l'humilité? Je dirais oui et non, quelque part. J'ai essayé de réfléchir à voilà, des exemples, je me dis, mais est-ce que quelqu'un qui dit « Non, je ne veux pas prendre la parole en église, je ne veux pas donner mon témoignage pour ne pas me mettre en avant », est-ce que ça serait une forme d'humilité? Qu'est-ce que vous pensez? Ben moi, je ne dirais pas vraiment, parce que généralement, si quelque part, surtout si Dieu nous appelle à témoigner, à lui rendre gloire, ben, est-ce, je ne crois pas que c'est de l'humilité de dire « non, je ne veux pas parler », mais parfois c'est plutôt de la peur, de la gêne ou parce qu'on n'a pas l'habitude. Mais ce n'est pas parce que forcément qu'on est humble, parce que quelqu'un qui reste derrière et qui ne veut pas trop se mettre en avant, ce n'est pas forcément quelqu'un d'humble, c'est peut-être quelqu'un qui n'ose pas trop puis qui a encore un petit peu peur de prendre sa place. Et est-ce que s'humilier, ça veut dire qu'en fait on est justement incapable, qu'on est nul, qu'on ne vaut rien ? Ben non, je ne crois pas non plus que c'est en se dénigrant qu'on va être humble. Parce que si on prend l'exemple de Jésus, ben Jésus, il était vraiment humble, mais jamais il a dit « mais moi je suis rien du tout, je ne vaux rien et je ne vais pas pouvoir faire, Seigneur ou Père, ce que tu m'appelles à faire ». Jésus, il savait qui il était. Il savait qu'il était le Fils de Dieu, qu'il avait une autorité, qu'il aimait les gens et il a été. Dans la dépendance, c'est vrai, dans la soumission à son Père, mais en même temps, je ne crois pas que justement, être humble, c'est se rabaisser. Je crois que c'est savoir plutôt qui on est, mais si on a de l'estime c'est, et qu'on arrive à s'aimer, c'est surtout parce que d'abord Dieu il nous aime et qu'on sait qu'on est un enfant de Dieu. Alors quelque part, même être humble, c'est savoir qu'on a une grande valeur justement, parce que Dieu il nous aime et qu'il nous donne aussi des capacités pour le servir. Mais en même temps, c'est aussi savoir qu'on a des limites, puis qu'on ne peut pas tout faire, et que chaque jour même, on a besoin de demander à Dieu, « Mais Seigneur, aide-moi, remplis-moi de ta paix, de ta joie, de ta patience pour pouvoir te servir, pour pouvoir aller là où toi, tu m'appelles. » Alors c'est vrai, nous sommes appelés à être humbles chaque jour dans notre quotidien. Comment faire? Saint Augustin, il dit, « L'humilité, c'est le fondement de toutes les autres vertus. » C'était un saint qui habitait aussi en Afrique du Nord et qui a écrit beaucoup de textes. Quelque part, il dit, mais si on veut être aimant, si on veut avoir la foi, si on veut avoir toutes ces choses, c'est comme si d'abord le fondement, c'est l'humilité. Donc c'est quelque chose aussi, c'est vrai, important. Et puis, ben, c'est vrai, on a notre exemple, c'est Jésus. Alors j'avais envie de vous proposer 4 pistes. Vous prenez celle qui vous parle le plus. Comment être humble au quotidien? Alors la première, ça pourrait être se dire, mais comme ce collecteur d'impôts, prier avec humilité, puis de reconnaître, Seigneur, c'est vrai, je suis pécheur devant toi. Et j'ai besoin que tu viennes, j'ai besoin de ton pardon, j'ai besoin que tu me donnes ta force, j'ai besoin que tu sois là au quotidien avec moi. Puis le deuxième, dans Matthieu 7:7, c'est marqué « Demandez, vous recevrez ». Eh bien, demandons l'humilité. Seigneur, accorde-nous cette grâce d'apprendre à marcher pour toi avec humilité. Puis il y avait un curé à Ars, en France, il s'appelait Jean-Marie Vianney. Il disait « Chaque jour, nous devrions demander à Dieu de tout notre cœur la vertu de l'humilité et la grâce de comprendre que nous ne sommes rien par nous-mêmes et que notre bien-être corporel et spirituel vienne de lui seul. » Donc voilà, une autre manière, c'est demander. C'est assez proche de la première, c'est soit, quelque part, c'est vrai, on peut prier avec humilité ou même, bah, finalement, dans la prière, demander cette humilité. Une autre piste qu'a aussi évoquée Célina, c'est dans nos relations, faire preuve d'humilité. Dans Philippiens 2, il est écrit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » En méditant un peu ce texte, je me suis dit « Mais je crois que... » Je pourrais faire une prédication juste sur ça, parce que je crois que c'est quand même un grand défi. C'est beaucoup plus facile de se dire « Ah ben ouais, en fait, je me sens un peu plus supérieur à telle personne. » Mais c'est rare qu'on se dise « Ouais, je me sens un peu inférieur. » Ou en tout cas, pas forcément inférieur, mais de se dire « Je choisis de considérer cette personne comme supérieure à moi. » Alors si c'est, je sais pas, quelqu'un qui a une place d'autorité, des fois c'est plus facile. Si c'est un prof, si c'est un patron, si c'est un médecin, ou je sais pas. Mais si c'est mon voisin, si c'est un enfant, si c'est une personne que je rencontre dans la rue, est-ce que je considère toujours l'autre comme supérieur à moi-même? Et ça, je me dis, ben vraiment, on a besoin que Dieu nous forme, qu'il nous aide, parce que ce n'est pas quelque chose de naturel. Et le dernier point, j'aimerais vous encourager, je vais reprendre ce texte que je vous ai lu au début, mais de se laisser attirer par ce qui est humble. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Alors c'est vrai, ça peut être dans plein de domaines où Dieu nous montre, mais montre-nous Seigneur et apprends-nous à nous laisser attirer par ce qui est humble. Et Jean-Baptiste, quand il a vu Jésus, quand il était avec lui, je crois que c'était lors de son baptême, il a dit « Il faut que Jésus, qu'il croisse et que je diminue. » Puis je crois que quelque part, c'est aussi une manière de montrer l'humilité. Nous avons besoin que Jésus, le Saint-Esprit, prenne toujours plus la place dans nos cœurs et que nous, on puisse diminuer. Et je trouve que quelque part, en méditant ces textes sur l'humilité, je me suis dit, mais on lit, on écoute, on reçoit la parole, mais notre premier ou notre plus grand professeur ou notre meilleur coach, je crois que c'est vraiment le Saint-Esprit. Parce que c'est lui seul qui vous connaît, c'est lui seul qui peut parler à vos cœurs et puis qui peut vous montrer à chacun, à chacune, à moi aussi. Mais Seigneur, comment progresser sur ce chemin de l'humilité? Montre-moi, Seigneur, quand des fois, peut-être dans mon cœur, je juge, quand des fois, peut-être, il y a de l'orgueil, quand des fois, justement, ben, j'aurais tendance à me sentir supérieur par rapport à une personne. Ou quand des fois, je cherche à me faire remarquer, je prends la parole, mais juste parce que j'ai besoin qu'on me voie. Alors, c'est vrai, toutes ces attitudes que, quelque part, ben, ça ne se voit pas forcément toujours extérieurement. Donc voilà, je me suis acheté un dernier truc, puis je suis en train de me vanter. Alors c'est vrai qu'actuellement, avec les réseaux sociaux, c'est quand même, ça nous pousse beaucoup les jeunes à ça. Alors voilà, tu mets sur Facebook, sur TikTok, sur tous ces trucs, tu montres un peu tout ce que tu fais de bien dans ta vie. Et quelque part, Jésus, il nous demande plutôt, mais restez humble et cherchez à être attiré par ce qui est humble. Et à ne pas chercher... quelque part à nous montrer, mais j'ai envie de dire, moi je crois vraiment, à montrer Jésus en nous, à montrer l'amour que Dieu a mis dans nos cœurs pour qu'on puisse être ses témoins. J'aimerais prier par rapport à tout cela. Et après, j'aimerais aussi vous proposer que chacun, chacune, on puisse rester comme ça 2-3 minutes pendant qu'il y aura de la musique, merci, et qu'on puisse méditer et qu'on puisse justement demander au Saint-Esprit, mais montre-moi qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur, qu'est-ce que toi, Seigneur, tu voudrais changer pour que je puisse grandir sur ce chemin d'humilité. Jésus, j'aimerais te remercier parce que c'est vrai, c'est toi qui nous montre comment être humble. Merci pour ta vie. Merci parce que tu as été jusqu'au bout pour nous. Seigneur, nous, on essaye, on avance, on cherche à aimer autour de nous, mais c'est vrai que ce n'est pas toujours facile. Et en même temps, il y a parfois tellement de besoins de reconnaissance et d'amour et on ne sait pas toujours quoi faire de tout ça. Seigneur, je te prie, viens remplir les cœurs de chacun d'entre nous. Qu'on n'ait plus besoin, Seigneur, de chercher ailleurs, mais qu'on puisse trouver en toi, Seigneur. Et qu'on puisse savoir vraiment, toujours plus profondément, qu'on est aimé de toi. Apprends-nous, Seigneur, chaque jour à marcher avec humilité, à nous laisser attirer par ce qui est humble, à regarder l'autre comme supérieur à nous-mêmes. Merci, Saint-Esprit, de parler à nos cœurs. Merci pour Daniel, ce prophète, pour tout ce qu'il a vécu, pour toutes les fois où il est venu devant toi dans la prière pour se laisser aussi remettre en question, pour recevoir de toi des directives, pour avoir la force d'affirmer qu'il croit en Dieu et qu'il ne veut pas plier le genou devant un autre Dieu. Seigneur, donne-nous, Seigneur, de continuer à marcher à ta suite avec humilité. Amen.
Thank you.
En effet, nous sommes faits à l'image de Dieu. Et notre Église, elle fonctionne grâce à chacun de nous. Alors du coup, on va poursuivre avec un temps d'annonce. Est-ce que Joanne, je sais que tu es par là. Oui, je t'ai repéré derrière ton masque. Donc Joanne va venir nous donner quelques annonces.
J'ai même pas pu me cacher derrière mon masque, zut. Bonjour à chacun. Alors, j'ai le grand privilège de vous donner les annonces en ce dimanche 6 février. Mardi 8 février, ça concerne principalement les pasteurs, il y a la pastorale de la Frée. Ensuite, jeudi 10 février à 19h15, nous avons la rencontre du conseil. Le vendredi 11 février à 17h, le caté pour les 11-15 ans. Et puis à 20h, il y a une soirée louange à la chapelle. Samedi 5 mars, alors est-ce que Sylvain, tu veux peut-être dire deux mots sur cette journée de formation œcuménique ?
Oui, alors c'est, j'ai rien préparé, mais c'est une. Vous n'avez pas préparé un visuel, non, c'est pas grave, vous l'aurez reçu. C'est une journée qu'on faisait traditionnellement tous les 10 ans, hein, avec, en commun avec la paroisse protestante et la paroisse catholique, des journées qui ont été très riches. On a invité des orateurs de différents bords, et puis on a eu un peu d'interruption quand même avec ce temps de pandémie, et on est très heureux de pouvoir reprendre, et ça aura lieu donc à Prony, au centre John Knox, avec Shafiq Kejavji. Je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent. C'est un cher ami qui a écrit aussi des livres super intéressants qui mettent en jeu le rapport avec le religieux dans la société d'une manière très... je ne sais pas comment dire, qui est compté avec des exemples extrêmement parlants. Donc on se réjouit de pouvoir être ensemble, les trois communautés, pour cette journée. Pour les inscriptions, vous pouvez vous annoncer comme ça, sinon les informations ont été envoyées par email.
Merci. Dimanche 6 mars, il y a le Derby des Bois. Et puis pour plus d'informations, vous pouvez vous adresser à Claude Parnigoni. Ensuite, dimanche 13 mars... La boussole et le baluchon, je crois qu'on a aussi un petit flyer. En tout cas, vous avez des flyers à disposition, donc ça aura lieu ici à 17h. Est-ce que tu retrouves Thierry à... 17h30, merci. Donc si vous posez des questions sur le sens de la vie, venez écouter la boussole et le baluchon. Samedi 23 avril, concert Adonia qui aura lieu au CEPAM. Ensuite, dimanche 1er mai, il y a un culte des baptêmes qui est prévu. Donc, si vous êtes intéressé à vous faire baptiser ou simplement que le sujet vous intéresse, il y a une formation qui est prévue par les pasteurs. Donc, n'hésitez pas à contacter les pasteurs à ce sujet. Et puis, les sorties d'église cette année, donc nous avons deux sorties d'église qui sont prévues. Celle du dimanche 22 mai, qui en préparation, vous recevrez des indications en suivant, soit par email, soit par une annonce complémentaire en temps voulu. Et puis aussi celle du jeudi 8 septembre, qui est le jeudi du jeûne Genevois. En discutant avec les personnes de la technique la semaine passée, il y a un besoin de renfort, donc si vous êtes plutôt pharisien, que vous cochez une case, vous pouvez vous adresser aux personnes de la technique. Si vous êtes plutôt collecteur d'impôts, n'hésitez pas aussi à venir et passer par-dessus vos peurs. Il y a de la place pour tout le monde. Et si c'est juste un essai, puis vous n'êtes pas convaincu et vous ne vous sentez pas à l'aise, il n'y a pas de souci, on peut aussi se retirer, ce n'est pas un problème, ça vaut la peine d'essayer. Et puis les pasteurs se tiennent toujours à disposition en semaine ou à la sortie du culte. Et puis il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon dimanche et laisser la place pour la bénédiction.
pour l'offrande, je vous rappelle qu'il y a toujours Twint, le compte et puis la boîte à la sortie. La semaine prochaine, on se retrouve pour Daniel 4, que j'essaierai de vous apporter. Et puis du coup, je vais laisser la place à Myriam pour la bénédiction finale.
Je vous invite à vous lever. Que Dieu vous accorde sa paix, sa joie, son amour, et qu'il nous accorde aussi de le suivre avec humilité. Bon dimanche à chacun et bonne semaine.